Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
De retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, si vous le souhaitez évidemment, de nous sensibiliser à des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale. Parmi les sujets qui font la une, la situation politique en Mauritanie, on en parlera évidemment avec cette crise post-électorale. Des réactions sur la Coupe d'Afrique des Nations, voilà autre sujet qui domine l'actualité. Et parmi les sujets dont on parle peu, notamment la flambée des prix du manioc. Un auditeur nous a contacté de Bangui. Nous lui donnerons évidemment la parole, car voilà un sujet qui concerne tous les Banguissois qui ne parviennent pas à trouver du manioc sur le marché de Bangui, marché de la capitale, à des prix corrects. Mais on en parlait juste avant le journal de François Mazet, ces graves accusations que Human Rights Watch publie cette semaine après une enquête de 18 mois. L'organisation de défense des droits de l'homme accuse Yahya Jammeh de violence sexuelle. L'ex-président gambien qui a régné pendant 22 ans est soupçonné d'avoir mis en place un véritable système pour abuser de jeunes femmes. Alain, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous nous appelez d'Accra et vous souhaitiez justement réagir à cette actualité.
Absolument Juan. C'est le bouleversement, c'est le choc, l'horreur, vraiment de voir que pendant toutes ces années, la Gambie avait à sa tête le sang-froid nilois en chef qui se croyait tout permis et qui avait confisqué finalement tous les moyens de l'État pour s'en servir afin d'assouvir ses pulsions les plus animales. C'est vraiment horrible, Juan, de voir que une jeune femme de 18 ans, une miss de 18 ans, dans une chambre qui voit s'avancer la carrure d'un Yahya Jammeh brandissant une seringue. J'imagine la terreur pour une petite, une enfant de cet âge.
Ouais, une seringue, puisque effectivement, elle a été droguée. Avant d'être violée par l'ancien président, c'est ce qu'elle raconte désormais devant tous les médias. Elle n'hésite pas à prendre la parole et elle appelle même désormais toutes les autres femmes qui ont été des victimes sexuelles de l'ancien président à avoir ce courage, le courage de briser le silence, de témoigner. Cette ancienne Miss Gambie s'appelle Toufa Diallo, elle avait 18 ans effectivement au moment du viol. Elle en a 25 ans aujourd'hui. En deux mots, Alain, qu'attendez-vous désormais après ces révélations? Un procès, c'est ce que demandait tout à l'heure un auditeur à l'enquêtrice principale de ce rapport. Mais vous y croyez, vous, au procès?
Mais Juan Gomez, un procès, ce serait quand même le minimum. Sinon, on ne sait pas où on va sur ce continent. Ce serait le minimum. On ne peut pas passer sous le boisseau de tels crimes d'un chef d'État. Et de voir que la société gambienne, finalement, professeurs d'université, médecins, artistes, footballeurs, tout le monde devait se répandre en génuflexion devant un déséquilibré.
Enfin, Yahya Jammeh n'est plus en Gambie, il vit en exil en Guinée équatoriale, où il est plutôt très bien accueilli, visiblement, lui n'a pas l'intention de quitter ce pays qui l'accueille depuis plus d'un an et demi. On aura l'occasion de suivre évidemment l'évolution de ce dossier, d'autant que la commission Vérité, Réconciliation et Réparation en Gambie a prévu de consacrer plusieurs séances aux violences sexuelles pendant le régime de Yahya Jammeh, donc on y reviendra. Merci Alain d'écouter RFI à Accra, au Ghana. Il est 10h44 à Paris, d'autres sujets dans l'actualité, et notamment la crise post-électorale en Guinée, où les quatre candidats de l'opposition contestent la victoire à la présidentielle de Mohamed El Razouani. Je vous rappelle les résultats qui sont des résultats pour l'instant provisoires, hein, puisque ce sont les résultats de la commission électorale et non de la Cour constitutionnelle. Le candidat du pouvoir a été élu dès le premier tour avec 52%. Bonjour Yacouba.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Nouakchott, vous souhaitiez réagir dans la libre antenne. D'abord, vous n'y croyez pas, vous, à ce résultat communiqué par la CENI?
Non, nous n'y croyons pas du tout, parce que tout simplement, les deux candidats arrivés deuxième et troisième ont eu des PV qu'ils ont recomptés, et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, le candidat du pouvoir ne peut passer au premier tour avec plus de 50% des voix. Ça, c'est entendu. Des recours ont été déposés au Conseil constitutionnel par les représentants de ces deux candidats. Et voilà, oui. On attend.
Et justement, ces candidats ont introduit une requête en annulation des résultats pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Vous y croyez vraiment?
Nous pensons que c'est la solution pour sortir le pays du gouffre dans lequel il est. Mais moi, je voudrais aborder le sujet avec autre chose. Avec ce qui se passe actuellement en Mauritanie est extrêmement grave. Parce que nous avons un pouvoir militaire qui est en train de transformer des revendications électorales en un problème communautaire. Comme à l'accoutumée, le pouvoir militaire, pour maintenir son pouvoir, est en train de vouloir faire croire aux Mauritaniens, particulièrement à la majorité bédane, qu'il y a des Noirs mauritaniens alliés à des Noirs étrangers, notamment des Sénégalais, pour leur prendre leur pays, ce qui est totalement faux.
Oui. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur disait avant-hier, il y a une main étrangère derrière ces événements. Il faisait référence aux manifestations spontanées le lendemain du vote, donc dimanche, des centaines de personnes qui ont manifesté à Nouakchott, manifestations réprimées, et parmi les personnes interpellées, on compte, selon l'opposition, une centaine de ressortissants étrangers, des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens, comme si c'était eux finalement qui seraient à l'origine de cette crise post-électorale, à l'origine d'une certaine volonté de déstabiliser le pays.
C'est un mensonge, je crois. Les autorités militaires ont l'habitude de faire cela. À chaque fois qu'il y a des revendications des négro-mauritaniens, ils nous sortent la même rengaine, le même mensonge. Ce qui importe, c'est de maintenir leur pouvoir, c'est de s'accaparer des biens du pays. Ils n'en ont plus de la Mauritanie ni des Mauritaniens.
Alors, Yacouba.
Tous les étrangers qui ont été arrêtés chez eux, sur le lieu de travail et dans la rue. Ça, tous les Mauritaniens le savent, même eux ils le savent, mais ils ont l'habitude d'utiliser ces stratégies maléfiques pour faire croire, surtout à la communauté bédane qui sont en danger, pour s'asseoir.
Ouais. J'entends votre passion, et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion depuis le début de la semaine de lancer le débat sur la situation en Mauritanie. Vous avez été très nombreux à nous appeler ces dernières 24 heures, donc on en parle évidemment dans la libre antenne ce matin, et on en reparlera lundi, c'est promis. Je voudrais qu'on écoute et qu'on donne la parole à un autre Mauritanien, mais qui nous appelle de Paris, Abou Khalidou, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous parlez également de mascarade.
Tout à fait. C'est une mascarade à la fois électorale et puis mascarade aussi par rapport à la population, puisqu'on a même eu des tirs à balles réels. On a des preuves, on a des photos. Ce pouvoir, comme disait Yacouba, qui vient de parler, effectivement, c'est connu, c'est du réchauffé, c'est une musique déjà connue. Donc l'opinion internationale aussi le sait. Ces deux généraux qui se maintiennent au pouvoir, M. Abdelaziz n'a même pas joué la carte, de ce président sortant qui veut l'apaisement, qui est neutre, la neutralité n'a pas été.
Oui. Vous pensez, le fait que le candidat du pouvoir revendique la victoire avant même que la commission électorale ne communique ses premiers résultats, c'est la preuve qu'il y avait une volonté de s'imposer et de s'accaparer le pouvoir.
Tout à fait. Oui. Ceci est bien vu. C'est une insulte à l'humanité, c'est une insulte au fils de ce pays, des patriotes qui sont mobilisés, et ça a beaucoup surpris le pouvoir, qui pensait être vraiment adulé, mais la population s'est vraiment mobilisée, la jeunesse, les femmes, et ils ont dit, ça suffit, ce pouvoir ça suffit. Et le fait de descendre dans la rue des militaires, des garnisons militaires, avant même que la CENI, la Commission nationale et indépendante, ne dise les résultats, et de deuxièmement, de s'auto-proclamer gagnant à 52%, c'est quand même une aberration. c'est comme une insulte à l'endroit des Mauritaniens.
En tout cas, vous parliez de manifestation. Il y a eu une volonté des opposants de manifester lundi. La marche a été reportée à jeudi, puis de nouveau reportée à une date ultérieure. Les opposants n'osent pas manifester car les marches sont interdites et ils pensent évidemment à leurs militants. Ils ne veulent pas que leurs militants soient réprimés par les forces de l'ordre. En tout cas, je rappelle que même si les résultats définitifs n'ont pas été annoncés, on les attend, résultats qui doivent être annoncés donc par le Conseil constitutionnel la semaine prochaine, plusieurs pays ont déjà félicité le candidat du pouvoir, c'est le cas de la France, de l'Algérie, du Maroc et du Mali. La crise post-électorale en Mauritanie, on en reparlera lundi dans cette émission, donc continuez à nous appeler, vous pouvez dès maintenant évidemment vous inscrire au standard. On va poursuivre cette libre antenne avec un sujet, allez, bien plus léger, on va parler football, la Coupe d'Afrique des Nations. On a, je vous le disais tout à l'heure, en introduction, des appels du Sénégal, du Mali, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et de Madagascar. Bonjour Tantel.
Bonjour à vous, monsieur Rouen, et à toute l'équipe. Bonjour, auditeurs et auditrices.
Merci
de nous... permettez-moi de saluer l'équipe de Radio Foot, la Panda Matamani.
Oui, ben on salue évidemment toute l'équipe de Radio Foot International, Annie Gasnier, et on salue au passage tous les envoyés spéciaux de RFI qui nous permettent de vivre tous les jours au plus près cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes à Antananarive, la capitale de Madagascar, et vous êtes très ému par le parcours des Zébus de Madagascar.
Oui, on ne peut qu'être très fier de notre équipe nationale parce que quand on regarde les satellites, on parle de Madagascar, on parle de Barré, et en bien en plus. Ils ont bien entamé le début de compétition. Ils ont bien digéré l'émotion d'une première participation pour arracher un nul face aux Guinéens, pourtant des habitués de la compétition. Cet exploit leur a propulsé dans un rang de relatif favori face aux Nzomis Burundais.
Oui.
Et ils ont signé une victoire historique.
Oui, victoire historique. C'est vrai que Madagascar s'est imposé hier 1-0 face au Burundi. Et vous avez raison de parler de victoire historique. C'est la première victoire de Madagascar dans une Coupe d'Afrique des Nations, pour une première participation d'ailleurs. Madagascar a 4 points au compteur. Vous êtes donc deuxième de votre poule. Vous y croyez à une qualification en 8e de finale?
Oui, déjà personne ne s'attendait à Madagascar d'aller en Cannes, encore moins un éventuel huitième de finale, mais avant de se projeter vers les huitièmes de finale, il faut d'abord penser au match face aux Nigérians,
oui.
Mais oui.
Dimanche.
Mais comme dit un proverbe africain, il faut prendre les matchs après comme ils viennent. Et comme dit un proverbe africain, les plus longs voyages sont faits d'un pas après l'autre.
Évidemment, un pas après l'autre, et on suivra évidemment de très près ce match dimanche face au Nigeria. Il suffirait d'un nul à Madagascar pour continuer cette aventure. Voilà, bonne chance aux Zébus de Madagascar et continuez à suivre la Coupe d'Afrique des Nations en écoutant RFI. Bonne journée à vous à Antananarive. Merci Tantel. De Tananarive, on va à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous avons l'un des supporters des Léopards de la RDC. Bonjour King Candy.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et vous êtes déçu, vous, par votre sélection nationale?
Je suis extrêmement déçu, pas moi seul d'ailleurs. La plupart des Kinois, nous sommes extrêmement déçus par cette prestation. Déjà, en quittant ici, nous avons vu la sélection, les 23 joueurs sélectionnés de Florian Ibengué. Nous avons été déçus par les 23 et ils continuent à confirmer nos déceptions avec les prestations qu'ils sont en train de faire. Déjà 2 défaites. Aucun but marqué, 4 buts encaissés. Donc, nous n'avons plus d'espoir et nous sommes extrêmement déçus.
Ouais. Quel est le fond du problème, selon vous?
Le problème, pour moi, en tout cas, contrairement à ce que diraient beaucoup de gens qui sont en train de viser seulement le sélectionneur, le coach Florent Ibengué, moi, je suis en train de me dire que le problème est collectif
et beaucoup plus dans le mental des joueurs. En tout cas, il n'y a pas... C'est une question d'inconscience, je me dis. Mmh. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de patriotisme qui est en train de vibrer aux dents de nos joueurs.
Ouais. Le sélectionneur Florent Ibenge, reconnaissait lui-même, après cette première défaite face à l'Ouganda, qu'il manquait un esprit de combativité au sein de cette sélection.
Juan, je vous dis que cet aveu d'échec est en train d'énerver, est en train d'aggraver de plus en plus la situation. Et pour le deuxième match, ils ont dit qu'ils nous donnent rendez-vous pour le match de Zimbabwe. Mais où est-ce qu'on est en train d'aller jusque-là?
Oui, c'est vrai. Il y a encore un espoir pour les Léopards du Congo, même s'ils n'ont plus leur destin en main. Mais il y a un espoir de terminer parmi les meilleurs troisièmes, puisque je rappelle que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Bon, on croise les doigts, évidemment, pour les Léopards du Congo. Et on aura l'occasion, évidemment, de vous redonner la parole, vous, supporters congolais, la semaine prochaine. Bonjour Issoufou.
Bonjour Juan et bonjour tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Gao, au Mali, et vous suivez évidemment, comme tous les Maliens, le parcours des Aigles du Mali. Vous êtes très optimiste, vous.
Exactement, je suis très optimiste avec cette rentrée en matière vraiment fulgurante des Aigles. Avec cette victoire contre la Mauritanie, vraiment c'est une très bonne rentrée en matière qu'il faut toujours continuer à maintenir.
Et vous y croyez, vous, cet après-midi, puisque ce sera le deuxième match des Maliens cet après-midi face à la Tunisie?
Affirmatif seulement, j'ai des réserves, parce que quand vous regardez les matchs maghrébiens et les matchs des autres pays, ce ne sont pas les mêmes. Quand vous voyez les matchs avec les pays maghrébiens, c'est des matchs encore plus vivaces, plus rapides. Mmh. Dans les 15 premières minutes, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être marqué. Et c'est là que j'insiste, en tout cas, je voudrais que les Aigles, au lieu de continuer à penser à l'arrière, c'est-à-dire comme le match qu'ils viennent de livrer avec la Mauritanie, de prendre vraiment avec toute l'énergie, il faut oui. prendre vraiment avec la dimension, et surtout l'adversaire qui est devant, parce que ce n'est pas un petit adversaire, mais vraiment c'est un adversaire de taille.
Oui, le mot d'ordre face à la Tunisie, c'est la concentration, disait un joueur malien sur l'antenne de RFI. En tout cas, il faut que absolument que les Aigles du Mali n'aient pas la grosse tête après ce 4-1 face à la Mauritanie. On suivra évidemment ce match Tunisie-Mali à 14h30 temps universel sur l'antenne de Radio France Internationale avec Eric Mamrut et Cédric De Oliveira. Il nous reste deux petites minutes. Allez, on continue à parler football. Bonjour Maki.
Oui Juan, bonjour et bonjour à tous.
Vous êtes en Guinée?
Oui, en Guinée, Juan. Et sachez que actuellement en Guinée, le découragement, c'est pas nous. On garde, voilà, on a la tête haute et puis bon, on espère pouvoir passer bientôt.
Ouais, oui, enfin, excusez-moi, je veux bien que vous soyez optimiste, mais enfin, la Guinée est en mauvaise posture, non? Vous êtes dos au mur.
Oui. Bah bien sûr, c'est vrai que la victoire du Madagascar nous a vraiment mis le couteau sur le cou, mais bien qu'on ne maîtrise pas notre destin aujourd'hui, bon, je pense qu'on pourrait battre le Burundi, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les quatre meilleurs troisièmes, c'est vrai, ça fait beaucoup de conditions, mais on pourra passer, on pourra battre le Burundi, et j'espère aussi que le Nigeria pourra battre le Madagascar.
Oui, le match contre Burundi est prévu quand? Dimanche?
Dimanche,
c'est bien ça, dimanche. Bon, bah écoutez, que le meilleur gagne, hein, je vais pas prendre position, moi, je suis ni pour le Sili National, ni pour les Hirondelles du Burundi. En tout cas, vous pourrez suivre évidemment ce match sur l'antenne de RFI. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sélectionneur ne fait pas l'unanimité. Hein. Il est critiqué sur la page Facebook de l'émission, visiblement critiqué sur l'ensemble des réseaux sociaux guinéens. On aura l'occasion évidemment de revenir sur le parcours des Guinéens la semaine prochaine. On fera une émission Coupe d'Afrique des Nations. Comme toutes les semaines, on en fera une jusqu'à la fin de la compétition. Match important aujourd'hui à suivre, je le disais tout à l'heure, Tunisie-Mali, 14h30, temps universel sur RFI. Et puis un peu plus tard, à 17h, temps universel, ah quel choc celui-là, le Maroc affrontera la Côte d'Ivoire. Match à suivre en intégralité avec Antoine Grenier et Olivier Pron aux commentaires. Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. N'oubliez pas lundi le débat sur la crise post-électorale en Mauritanie. Bon week-end.
Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France.